Bonsoir. Kampala, pas d'avancée notable enregistrée jusqu'ici dans les pourparlers entre la délégation gouvernementale et les rebelles. Le M23 réclame entre autres l'annulation des résultats des élections de 2011, la dissolution des institutions et la mise en place d'un conseil national de transition. Une demande qualifiée de vaste blague par Kinshasa. Comment analyser cette situation? Nous recevons comme invité professeur Théophile Bemba Fundu, député national de la majorité et cadre du PPRD. Honorable Bemba Fundu, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Justin Bitakwira, député national de l'opposition et président du groupe parlementaire UNC et allié. Honorable Bitakwira, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Professeur Abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique du Congo et analyste politique. Le professeur vient de faire son entrée dans ce studio. Le temps qu'il s'installe. Monsieur l'Abbé Mugaruka, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Chef des travaux, Jean-Bernard Mibeko de Kisangani en province orientale. Cela a été prévisible. Le gouvernement devrait en principe orienter le M23 dans ses revendications dans le cadre du dialogue national. Aujourd'hui, tous les Congolais sont vigilants. On ne sait pas comment le gouvernement pourra satisfaire les revendications du M23 sans frustrer la population et l'opposition politique. Le Brakbert Guillaume de Mahagi en province orientale. Pourquoi ne peut-on pas simplement mettre fin à ces pourparlers de Kampala pour trouver un autre chemin? Et à quand la fin des forces négatives à l'est de la RDC? Quelle image allons-nous léguer aux générations futures? Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
À Kampala, l'incertitude commence à planer sur les pourparlers entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Selon nos sources dans les deux camps, il n'y a pas une plénière annoncée ni programmée jusqu'à la fin de la semaine. Hier, le facilitateur consulté séparément à Mounyonyo, les chefs de la délégation gouvernementale et ceux du mouvement rebelle. Rien n'a filtré officiellement de ces rencontres, mais des indiscrétions dans les deux camps font apparaître des divergences persistantes quant au point à l'ordre du jour. De Kampala, correspondance de notre envoyé spécial Innocent Olinga.
Les grandes divergences, d'après nos sources sur place, se situeraient au niveau des questions politiques que le M23 voudrait qu'elles soient abordées dans les discussions au troisième point à l'ordre du jour. On apprend par exemple que les mouvements rebelles sollicitent non seulement l'annulation des résultats des élections de novembre 2011, mais aussi la dissolution du Sénat, des assemblées provinciales et la démission des gouverneurs. En échange de tout cela, le M23 voudrait la mise en place du Conseil national de transition pour diriger la période transitoire. Position rejetée par la délégation gouvernementale, qui la qualifie, je cite, d'une vaste blague, fin des citations. Aussi, la partie gouvernementale voit-elle le M23 coincé pour n'avoir pas obtenu gain de cause dans sa requête relative à l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009 qui, d'après les rebelles, n'a pas été respecté par Kinshasa. Selon nos sources à Mounyonyo, les facilitateurs seraient non seulement embarrassés, mais surtout opposés à cette exigence du M23 tendant à remettre en cause les institutions de la République. À cette allure, les facilitateurs se verraient même dans l'obligation de suspendre une fois de plus ces négociations, indiquent nos sources. Kampala, Innocent Olinga, Radio Okapi.
Merci Innocent Olinga. Vous venez de le suivre, la délégation du gouvernement congolais qualifie de vaste blague les revendications du M23 exprimées lors de la plénière de mercredi 16 janvier dernier. En effet, le mouvement rebelle exige non seulement l'annulation des résultats des élections de novembre 2011, la dissolution du Sénat, des assemblées provinciales et la démission des gouverneurs, mais aussi la mise en place du Conseil national de transition en vue de diriger la période transitoire. Selon le M23, le CNT aura 5 missions principales, à savoir la révision de la Constitution, la formation d'un gouvernement de transition, la mise en place des autres institutions de la République, la restructuration de la CENI et l'organisation des élections générales. Écoutez l'abbé Apollinaire Malumalu, chef du groupe des experts de la délégation gouvernementale, qui avait tenu une conférence de presse à l'issue de la plénière de jeudi dernier. Ses propos ont été recueillis par notre confrère Franck Salé de la RTNC.
Il n'est pas question de pouvoir remettre en question l'ordre constitutionnel et institutionnel de la République démocratique du Congo. Et toutes les propositions que vous avez reçues, Conseil national de transition, gouvernement d'union nationale, dissolution des institutions, pour nous, c'est de la vaste blague. Ça n'a rien à voir avec notre dialogue et il n'en sera pas question. Nous sommes là pour savoir pourquoi l'M23 a pris les armes en violation de la Constitution de la République. Et quelles sont les pistes pour mettre fin? Nous ne sommes pas là à un forum qui va discuter de tous les problèmes de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas aussi pour les nostalgiques à Sad City, à un dialogue intercongolais. Nous ne pouvons aussi qu'on renverse les rôles. Celui qui devrait être au banc des accusés se transforme en procureur. Et non, les choses doivent être claires. L'M23 a été reconnu comme une force négative.
Professeur Théophile Bemba, vous êtes député national de la majorité et cadre du PPRD. L'incertitude, est-ce que vous partagez le point de vue selon lequel l'incertitude commence à planer à Kampala sur les pourparlers entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23?
Normalement, il ne devrait pas y avoir d'incertitude dans la mesure où cette rencontre se réfère à un cadre juridique bien connu. Il y a une rencontre de chef d'État de la CIGRL. Après plusieurs autres rencontres, évidemment précédentes, et il y a un communiqué qui avait été signé. Et les cadres juridiques étaient bien tracés. Ces cadres juridiques prévoyaient que les institutions de la République et le M23 se retrouvent à Kampala et qu'au courant de cette rencontre, qu'ils puissent évaluer ensemble ces accords du 23 mars 2009. C'est pour cela que ce mouvement s'appelle M23. C'est son essence même. Mais qu'il est vrai aussi qu'il a été dit qu'il revenait aux institutions d'écouter aussi certaines revendications d'M23. Mais tout cela sans remettre en cause la légitimité des institutions de la République démocratique du Congo. Et donc, si nous partons de ce cadre juridique, il ne devait pas y avoir normalement des tergiversations. Il devait pouvoir travailler. Et maintenant que l'évaluation est terminée, il devrait en tirer deux conclusions. Et alors, à ce moment-là, les institutions se mettraient à écouter aussi d'autres problème qui se pose. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les institutions fonctionnent. Après les élections du 28 novembre 2011, et il est vrai qu'il est apparu qu'il y a eu des problèmes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Et le M23 dit, justifie, a pris des armes en disant, écoutez, moi j'ai des choses à dire. Et c'est comme ça qu'on veut l'écouter.
Alors là, professeur, le M23 vient de franchir le Rubicon. Il demande notamment, réclame l'annulation des résultats des élections présidentielles et législatives de novembre, la dissolution du Sénat, des assemblées provinciales, la démission des gouverneurs, ainsi que la mise en place d'un Conseil national de transition, CNT en sigle. Comment maintenant vous analysez cette nouvelle donne?
Moi, je dis que je ne vous ai pas parlé d'une vaste blague pour utiliser un terme plus correct. Je dis, c'est pas normal. Parce que il est temps, quand même, que les Congolais, nous comprenions que ce pays, c'est notre pays à nous tous. Et que donc, finalement, nous devons nous ressaisir, prendre conscience. Il y a des choses sur lesquelles on ne devrait pas revenir 36 fois. Nous nous sommes retrouvés en 2002, le 17 décembre 2002. Il y a eu signature d'accord global inclusif après un long processus de dialogue intercongolais. Toutes les forces y étaient représentées. Une constitution a été votée par un référendum populaire, soumise au référendum populaire. Et cette constitution aujourd'hui est mise en œuvre, est appliquée. Les processus est en marche. Alors, ce que le M23 demande, c'est quoi? C'est qu'on marque un arrêt à tout cela? Qu'on recommence à zéro? et que donc cette rencontre du dialogue intercongolais devienne comme toutes les autres rencontres antérieures, parce que Monsieur Hiroum, il serait intéressant quand même quelque part pour nous les Congolais de faire le point depuis 60 jusqu'à ce jour. Combien de fois nous ne sommes pas rencontrés et qu'à chaque fois nous sommes rencontrés, quels en ont été les résultats. Et donc je crois qu'on ne doit pas faire marche arrière. S'il y a des problèmes, le président de la République, les institutions ont accepté qu'il y ait cette rencontre. Et là, le président de la République, faisant sur l'État, la nation, a accepté aussi qu'il y ait un mécanisme de concertation pour renforcer la cohésion nationale. Que dans ce cadre-là, que les gens s'expriment pour dire ce qui ne va pas, mais dans les cadres de la loi de la République, de la constitution actuelle. Et c'est de cette manière que nous pourrons avancer et pas d'une autre façon.
Professeur, il y a des informations qui font état du fait que le M23 sur terrain renforce ses positions, continue les violations des droits humains, la perception illégale des taxes, n'a pas respecté même la distance à laquelle il devait se trouver de la ville de Goma. Le M23 finalement ne serait-il pas en position de force? Et ne serait-il pas en train de mettre le gouvernement à genoux pratiquement?
Je crois que d'abord le fait qu'il ne respecte pas le mandat que les chefs d'État de la sous-région ont confié à cette rencontre montre déjà à suffisance à quelle personnalité nous avons affaire.
Et donc, il faut arrêter ces pourparlers.
Je crois qu'on doit les écouter. Il faut qu'on les écoute. L'évaluation a été faite. Il faut qu'ils acceptent. Parce que, je disais, c'est l'essence même de leur mouvement, en disant que le gouvernement n'avait pas respecté les accords du 23 mars. Et donc, on les a écoutés. Il faut que cela soit rendu public pour que l'opinion nationale et internationale sache qu'est-ce qui n'a pas été respecté et qui justifie à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes et cherché à tuer leurs propres frères, n'est-ce pas, en désaccord avec la Constitution de la République démocratique du Congo?
Honorable Justin Bitakwira, vous êtes député national de l'opposition et président du groupe parlementaire UNC et Alliés. Comment vous analysez cette situation? Vous avez suivi le professeur Théophile Bemba.
Oui, d'abord, je me pose la question si j'aurai la chance d'avoir, de votre part, 4 questions successives.
Allons-y, nous avons un chrono que vous avez sous les yeux. Vous suivez son évolution en même temps que tous, d'ailleurs.
Comme vous venez de le faire de sa part. Mais d'abord, sincèrement, il faut que je souhaite meilleurs vœux aux auditeurs de Radio Okapi et souhaiter bonne chance à la République démocratique du Congo qui joue contre le Niger ce soir.
Voilà, on réfère rapidement cette parenthèse. Ouais,
je voudrais d'abord dire ici que nous, comme opposition parlementaire à l'Assemblée nationale, représentée par les quatre groupes parlementaires de l'opposition, UDPS, FAC, MLC Allié, UNC Allié, que je représente ici, ainsi que les libéraux, démocrates, nous avons été sollicités aussi par la majorité au pouvoir de les accompagner à Kampala, pour aller effectivement évaluer les accords de 23 mars. Et nous avons décliné l'offre, en âme et conscience. Parce que nous sommes en train de nous poser la question de savoir la majorité au pouvoir, entre son pouvoir et le pays, qu'est-ce qu'il met au devant de la scène? Quelle est sa priorité? Sa priorité, c'est devenir le pouvoir qu'il a gagné, entre guillemets, où la majorité pense que c'est le sort du pays et de la nation ou de la patrie qui l'intéresse. Donc ici, nous considérons que ce qui se passe à Kampala, effectivement, c'est un conseil de famille. C'est un conseil de famille entre deux partenaires qui nous ont habitués, familiarisés, à s'entendre pour le mixage, pour le brassage, pour l'intégration. Et d'ailleurs, nous nous posons la question. qui a poussé au gouvernement de Kinshasa de croire que le M23 a hérité les accords du CNDP. Ils nous disent d'abord que le M23 c'est une force négative. En même temps, ils négocient avec ces forces négatives à Kampala. Mais en même temps, ils ont dans leur mallette les délégués du CNDP.
Alors, honorable Bitakwira, peut-être pour qu'on avance dans ce débat, le M23 a posé des revendications que nous avons énumérées ici, notamment l'annulation des résultats des élections présidentielles, législatives de 2011, la dissolution des institutions de la République, la démission des gouverneurs et la mise en place d'un Conseil national de transition. Comment vous accueillez ou vous analysez ces revendications?
Je dois d'abord vous dire qu'à Kampala, il se joue un match où il n'y a pas d'arbitre. C'est deux équipes qui se connaissent bien et bien, qui sont en train de se parler entre elles, et ils n'ont pas voulu qu'il y ait un arbitre. L'arbitre, donc, que nous avons pensé que ce serait en même temps l'opposition ou les forces vives, internes et externes, ils ne l'ont pas voulu. Donc je suis en train d'insister que c'est un conseil des familles politiques de la majorité qui est à Kampala, en train de siéger, en train de discuter entre des accords qu'ils ont d'abord signés en catimini. Donc je suis en train même de supposer que ce qui se passe à Kampala n'est pas différent de l'accord en cascade que le gouvernement avait fait à San City pour venir à Matadi. Il y a un accord qu'il avait voulu signer entre le MLC et le gouvernement et laisser tous les autres à San City. Et je voudrais donc atterrir en disant que...
Voilà.
Je voudrais donc atterrir en disant que nous, depuis le 15 décembre, par la voix de mon président national de l'UNC, on avait demandé qu'il y ait un dialogue inclusif avant que tous les dégâts qui se sont passés dans le Nord Kivu, les pillages qui s'est passé dans le Nord Kivu, les tueries systématiques qui se sont passées dans le Nord Kivu, et on a attendu que des gens meurent, qu'on pille nos biens, qu'on viole nos femmes à Goma, et aujourd'hui comme la communauté internationale, c'est pas d'où est venue la pression, a demandé au M23 de libérer la ville de Goma. Le pouvoir de Kinshasa reprend du poil de la bête pour effectivement commencer encore à naviguer, pour dire qu'effectivement on ne sait pas.
Alors,
le gouvernement ne sait pas jusqu'à quand le peuple congolais va l'attendre.
Voilà, nous allons prendre pour vous, honorable Bitakwira, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Bonjour Mutondo, depuis la ville province de Kinshasa, dans la commune de Lemba. Si le gouvernement a accepté de se mettre à table avec le M23 pour négocier, alors il est obligé d'accepter leurs revendications. D'ailleurs, ils ont raison parce que ce qu'ils revendiquent, c'est ce qui handicape la démocratie et le développement de notre pays.
Honorable Bitakwira, réaction.
Oui, moi j'ai dit que le M23 et le pouvoir de Kinshasa, c'est un conseil de famille.
Alors qu'est-ce que vous répondez aux revendications du M23?
D'abord, je ne suis pas le porte-voix de M23.
Ça,
je suis dans un processus démocratique. Je me suis fait élire à l'Assemblée nationale. C'est à mon deuxième mandat.
Et le M23 demande qu'on supprime les institutions, vous comprenez.
On doit le savoir que nous, à l'opposition politique parlementaire...
Ont-ils raison ou pas, finalement?
S'il vous plaît.
Allons-y rapidement parce que vous allez avoir votre temps de temps.
Il n'appartient pas, nous, de l'opposition politique, de penser qu'à Kampala, nous avons un délégué qui s'appelle M23, pour plaider à notre place, et aussi savoir que si légitimité il y aura, ou qu'on va mettre en cause, c'est nous les acteurs, c'est nous qui avons été les concurrents.
Merci.
De Kabila ici,
je vous redonne
l'IDPS, l'INC, le MLC, c'est nous qui sommes les concurrents de Kabila,
je vous redonne
nous lui avons dit qu'effectivement les élections s'étaient très mal passées.
Merci.
Et je suis mal à l'aise
d'entendre
le professeur dire qu'il y a eu une constitution. Alors, qui est sortie de San City, qu'ils ont d'abord révisé, qu'il n'y a plus de tours. Il n'y a qu'un seul tour où un président de la République s'est fait élire à moins de 50%.
Je vous redonne la parole tout à l'heure, honorable Bitakwira. Professeur Abbé Richard Mugaruka, vous enseignez à l'Université catholique du Congo. Vous êtes analyste politique. Kampala, on semble faire du surplace. Il y a des nouvelles revendications du M23 qui semblent plus compliquées. Comment vous analysez cette situation?
Merci pour la question. La première chose que je voudrais signaler et affirmer,
c'est que moi je ne suis pas étonné que ça ne fonctionne pas. Les fondamentaux n'y sont pas. Les prémices sont mauvaises. Elles sont antidémocratiques, anticonstitutionnelles. Comment est-ce qu'on peut faire valoir la démocratie ou les principes démocratiques et les principes constitutionnels lorsque, dès le départ, on a commencé par les violer? Dans un pays normal, l'État doit avoir ce que l'on appelle le monopole de la violence. Et donc être capable, lorsqu'il y a ce que l'on appelle les forces négatives ou les rébellions, les gens qui recourent à la violence, l'État devrait être capable, par une simple opération de police, de les contenir, de les maîtriser et de les rappeler à l'ordre. Il y a eu un mouvement de rébellion, un mouvement de violence, un mouvement de belligérance qui s'est déclaré avec l'M23. Notre État a été incapable de faire face, notre État a été militairement battu, et c'est pour cela qu'on l'a obligé à aller négocier avec des forces qui n'ont aucune valeur sur le plan constitutionnel et sur le plan démocratique. Alors voilà, ce mauvais départ-là nous a poursuivis et poursuit encore les dialogues de Kampala jusqu'à ce jour. Et cette institutionnalisation de la violence comme moyen de s'exprimer et de conquérir le pouvoir, qui part de 1 plus 4, l'accord de Sainte-Cité a été un véritable échec sur ce point-là. Instaurer, institutionnaliser la violence comme moyen de conquérir le pouvoir et obliger le partage de pouvoir entre belligérants, c'est ça notre péché originel. Tant qu'on aura des belligérants au pouvoir, tant qu'on n'aura pas changé cela, nous n'aurons pas de paix. Tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir et le garder se diront, puisque c'est par la force que cela se fait, il faut continuer dans la même logique. Donc, les fondamentaux n'y sont pas. On ne peut pas attendre d'un forum antidémocratique, anticonstitutionnel, des résultats démocratique et constitutionnel.
Alors, Monsieur l'Abbé, puisque ça a commencé, ça a évolué, que là, maintenant, on est pratiquement dans l'enlisement, qu'est-ce qu'il faut, comment ça va se passer, comment vous entrevoyez la suite? Est-ce qu'il faut arrêter ça?
Ça n'évolue pas, on tourne en rond. C'est-à-dire que, dans la logique du M23, puisqu'il est militairement plus fort, il doit imposer ses avis. C'est tout. Et je suis étonné que depuis qu'on a commencé ce dialogue, qui est basé sur le principe, sur la base, qui est partie de la faiblesse de l'État, la faiblesse militaire, comment est-ce que on croit qu'on va résoudre le problème tant que l'État sera faible, continuera à être faible? Qu'est-ce qu'on a changé en termes d'équilibre des forces sur le terrain? Vous savez que tous ces dialogues-là ne fonctionnent que s'ils correspondent aux équilibres réels de forces sur le terrain. Et c'est ça le problème. Le M23 ne veut faire valoir que les arguments de force. Faut pas venir ici avec des modèles démocratie, la gouvernance, lorsqu'il s'agit d'un mouvement qui est basé sur la force et lorsque le forum lui-même est basé sur la reconnaissance ou le constat de l'incapacité, de la faiblesse du gouvernement congolais à faire face à un mouvement de violence, à une rébellion.
Alors, Monsieur l'Abbé, le gouvernement congolais serait-il tombé dans son propre piège en acceptant c'est pour parler?
Absolument, absolument. Écoutez, l'M23 vous dit, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est clair. Vous marchez ou bien nous vous tapons dessus. Voilà, c'est simplement ça. Nous sommes évidemment là dans la loi de la jungle. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. C'est vraiment l'absence totale de repères et de normes. Et c'est là le fond du problème. Alors, maintenant, le gouvernement doit se poser la question. Eh bien, si je ne suis pas capable de contenir militairement l'M23, je fais quoi? Et je comprends aussi que l'opposition est refusée d'y aller. Tout simplement parce que, comment est-ce qu'on peut négocier dans un cadre avec des principes démocratiques et constitutionnels lorsque les prémices ne le sont pas? Lorsque les prémices ne le sont pas, c'est comme si les Kuluna aujourd'hui étaient plus forts que notre police et qu'ils exigeaient qu'on tienne compte de leurs avis. Ça serait vraiment le refus, la négation de l'État. Nous avons commis la grande gaffe, la grande erreur de ne pas restaurer l'État. Et tant que notre État, on n'aura pas restauré l'État avec ses attributs fondamentaux, Eh bien, tant qu'on ne l'aura pas, tant qu'on n'aura pas d'armée, tant qu'on n'aura pas de justice, tant qu'il n'y aura pas un dialogue qui est le poumon par lequel respire la démocratie, un dialogue permanent, sincère et ouvert, eh bien, nous en serons là. Je ne vois pas ce qu'on peut attendre de ce forum antidémocratique et anticonstitutionnel. Je ne vois pas.
Deux auditeurs pour vous, Monsieur l'abbé. Outchaï Babi de Bouni en province orientale. Il n'est pas bon que le gouvernement qualifie de vaste blague la revendication du M23 parce que le M23 l'avait mis à genoux hier. Il faut plutôt le comprendre et trouver le juste milieu. Il y a Martin Gallet, fils qui nous écrit de Cape Town en Afrique du Sud. Ils ont amené la guerre sans un but principal. Le gouvernement a qualifié les réclamations du M23 comme vaste blague. C'est bon. Alors pourquoi continuer à dialoguer avec les gens qui font des vastes blagues dans votre pays et qui font que l'on puisse vous qualifier comme incapable à cause d'eux, Monsieur l'abbé.
Mais c'est évident. Je ne cesse de le dire. Hein. Négocier en position de faiblesse, c'est toujours s'exposer à la capitulation et à la trahison. C'est clair. Il n'y a pas de dissuasion politique, il n'y a pas de dissuasion diplomatique sans dissuasion militaire. Un pays, un État qui n'a pas de police, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de forces de sécurité, eh bien, cet État-là s'expose à être la risée de justement de tous les violents, de tous ceux qui sont plus forts que lui. Et c'est ça le problème, c'est ça le point de fond qu'il faut résoudre. Mais tant que notre État sera faible, eh bien, ça sera aujourd'hui M23, demain M27, demain...
Il y a déjà le M26.
Il va avoir M26, et puis ça s'appelle les Koulouna, ça sera n'importe qui. Un État n'a pas le droit d'être faible. Un État n'a pas le droit d'être faible. Et donc, se mettre en état de faiblesse et s'exposer à la capitulation, à la trahison. D'ailleurs, même le fameux cadre juridique là dont on parle. Les pays qui nous ont imposé ce dialogue avec le M23. Ces pays-là ont leur rébellion. Est-ce que vous avez vu les Rwandais négocier avec les FDLR? Est-ce que vous avez vu les Ougandais négocier avec les LRA? Et ce sont ces LRA et ces FDLR qui causent l'insécurité chez nous. Non, notre problème, c'est notre faiblesse. C'est l'occasion qui fait le larron. Et on ne peut rien attendre de Kampala tant que notre État sera faible.
Professeur Théophile Bemba, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Kinshasa.
Honorable Donatien Kanyinzia, député national honoraire. Kinshasa est aujourd'hui à Kampala en discussion directe avec le M23 à partir de l'échec militaire qu'il a connu à Goma. Si bien que Kinshasa négocie donc à fonction de faiblesse. Et pourtant, l'évolution de discussion telle que nous suivons à Kinshasa laisse voir qu'il y a risque que la guerre reprenne parce que l'issue n'est pas forcément heureuse. Est-ce que Kinshasa peut rassurer le peuple congolais que si jamais la guerre reprenait, il peut gagner cette guerre afin que on a fini une fois pour toutes parce que c'est pas la peine de demeurer toujours dans une guerre d'usure qu'on abandonne pas, qu'on ne gagne pas. Sinon, la voie possible à ce moment-ci serait que Kinshasa laisse l'arrogance, qu'il accepte le dialogue non pas avec le M23, mais un véritable dialogue national sur les vrais problèmes politiques. Donc, la guerre menée par le M23 n'est qu'une manifestation.
Abandonner Kampala pour un véritable dialogue national, professeur Théophile Bemba, je vous vois sourire. Quelle est votre réaction?
Je voudrais reconnaître le fait que, effectivement, notre pays se fera mieux respecter quand nous aurons effectivement une armée forte, équipée. Républicaine qui fera confiance, nous aurons une police au service de la population. Et je crois que là-dessus, on n'a même pas à redire. C'est pour cela, à Sun City même, parmi des objectifs, il y avait un objectif majeur, c'est la formation d'une armée nationale républicaine.
Ça, et que l'on n'a pas toujours plus de 10 ans après.
Et qu'on n'a pas eu plus de 10 ans après pour diverses raisons. On l'a évoqué, on était dans un schéma qui obligeait à ce que le pays soit réunifié, que la paix revienne. Et je crois que les Congolais aujourd'hui ne peuvent pas regretter le temps qui s'est écoulé et qui fait qu'aujourd'hui on est dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, maintenant, nous devons aussi savoir que dans un pays où il y a des institutions démocratiques, le rôle d'un gouvernement, c'est de résoudre le problème qui se pose dans le pays. Et dans le cas d'espèce, effectivement, un problème s'est posé. C'est ce problème, le M23. Il y a eu cette rencontre du 23 mars. Et finalement, pour ne pas aller dans le détail, finalement, ils estiment que c'était pas respecté. Ils ont pris les armes. C'est un problème qui se pose dans le pays. Il est évident qu'aussi, on accuse les institutions d'avoir accepté de dialoguer, de négocier, de parler avec eux, de les écouter. Non, on ne peut pas accuser le gouvernement parce que c'est son rôle. Aujourd'hui, on le voit bien dans d'autres pays. Prenons les cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gouvernement du président ivoirien, le président Ouattara, est en train d'écouter les partis de l'opposition. Donc, c'est notre pays à nous tous. Quand il y a des problèmes, c'est normal que les institutions s'intéressent soit au premier plan pour écouter ce qui se passe. Et je crois que le président de la République l'a saisi et c'est comme ça qu'il a accepté.
Mais l'abbé Mugaruka dit que les prémices étaient déjà mauvaises.
Bon, les prémices étaient mauvaises. Lorsque M. l'abbé Mugaruka parle de prémices, oui, les prémices étaient mauvaises parce que M. l'abbé dit qu'on a institué le fait que les gens doivent chercher à prendre le pouvoir par la violence. C'est mauvais, nous ne pouvons pas accepter. Notre constitution le condamne. Et c'est une raison de plus, et c'est d'ailleurs, je dis une raison de plus, pour qu'au niveau de l'opinion nationale, et l'opinion internationale le sait, une raison de plus pour qu'on comprenne que nous ne pouvons en aucun cas encourager le M23.
Alors professeur, faut-il arrêter Kampala? Faut-il organiser des négociations, un dialogue national, brièvement, je vous en prie?
Mais pour, nous avons déjà organisé, je dis tout à l'heure, là, nous avons organisé un dialogue national, un dialogue intercongolais, en décembre 2000, on a signé un accord en décembre 2002. Alors, je veux dire ceci, que le Congolais, que nous essayons de faire un effort de nous souvenir combien de fois nous sommes rencontrés, et à chaque fois que nous sommes rencontrés, quel est le résultat qui en est sorti? Au moins, après le dialogue intercongolais, il y a des institutions qui fonctionnent.
Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, puisqu'à Kampala, il y a enlisement?
Ben, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que primo, à ce qui me concerne, c'est mon point de vue, je pense que l'évaluation a été faite. Il doit être communiqué à l'opinion nationale internationale, puisque le M23 a pris les armes en disant que, voilà, ces accords n'étaient pas respectés. Il faut que cela soit porté à la connaissance de l'opinion nationale internationale. Secondo, que le gouvernement, les institutions, le président de la République en particulier, mettent en œuvre ce qu'il a proposé au niveau de l'État de la Nation, en disant qu'il y a un mécanisme de concertation, et qu'ils se mettent aussi à écouter. Il les a écoutés, les institutions l'ont écouté. On a écouté l'M23, on écoute aussi l'opposition politique, on écoute les autres forces vives, et que la somme de tout cela permette aux institutions de la République
de se redéfinir.
Voilà.
Voilà. Bah, honorable Justin Bitakwira, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma en Nord-Kivu.
Et dit Moïse Nkachomboye depuis Goma, province du Nord Kivu. Selon moi, vraiment, les pourparlers de Kampala ne vont rien donner. Il va accoucher d'une souris. Alors je propose au gouvernement de prendre l'armée en charge, de mettre tous les moyens possibles, d'investir dans l'armée, en fait d'engager une guerre pour repousser les rebelles.
Donc revenir à l'option militaire, honorable Justin Bitakwira, est-ce une solution?
Non, je voudrais d'abord insister pour dire que le gouvernement ne doit pas se comporter comme un pingouin dans le désert.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est un animal que quand il s'enfuit, il enfuit les yeux dans le sable, il pense qu'on ne le voit plus. Et j'insiste, comme dans mes habitudes, à dire qu'une oreille qui veut se mouiller n'entend jamais le tonnerre. Alors que le tonnerre est entendu par tout l'univers.
Alors en termes simples, qu'est-ce que vous voulez dire?
En termes simples, je voudrais dire que le pouvoir de Kinshasa doit comprendre que le peuple congolais a été trop patient par rapport à toutes ces indélicatesses politiques. Non seulement ça fait plus de 13 ans qu'on patauge, on nous tue, on nous confond aux mouches, mais le pouvoir tient uniquement à son pouvoir et il ne veut rien lâcher, quelles que soient les difficultés que nous connaissons. Donc ici, il s'agit de comprendre effectivement que le chef de l'État, le président de la République, doit d'abord se débarrasser de tous les flatteurs autour de lui, qui lui font comprendre que les Congolais meurent, que le pays n'avance pas, nous détenons le pouvoir et nous devons les conserver en entier. Ici, l'opposition ne se bat pas pour un quelconque partage du pouvoir. Nous nous battons pour l'avenir et le sort de notre pays. Quel est le visage qu'offre notre pays? Le visage qu'offre le pays sous la présidence de Joseph Kabila est que c'est un visage de violence.
Alors le président de la République...
À travers toute la République.
Que le président de la République se débarrasse des flatteurs, ça c'est la première proposition. Quelle est l'autre proposition?
Que ce soit d'abord au Katanga, que ce soit au Kivu, ça peut être à Kinshasa. Le professeur Mugaruka insiste sur le phénomène Kulula. Donc nous sommes en train de penser aujourd'hui qu'il faut la sélection de toutes les intelligences de ce pays, sans tendance aucune, pour qu'on s'assoie autant que La Fontaine l'a fait pour les animaux malades de la peste, que nous sommes malades, nous sommes atteints de la lèpre, et le pouvoir est en train de nous proposer un produit pour guérir la gale. Donc, la lèpre doit être traitée par les experts du traitement de la lèpre, et non par les experts de la gale. Ici, sincèrement, avec larmes aux yeux, nous sommes devenus la risée du monde.
Alors maintenant qu'à Kampala, il y a un enlisement, honorable Bitakwira, quelles sont vos propositions? Vous avez suivi le professeur Théophile Bemba qui a énuméré un certain nombre d'éléments.
Vous savez qu'à Kampala, on nous a même fait entendre qu'il y a une opposition qui est représentée là-bas. Et moi, je suis en train d'insister qu'on ne peut pas inviter un pasteur qui n'a pas de chorale, qui n'a pas de diacre, qui n'a pas de fidèle à venir bénir votre mariage. Donc ici c'est une question de vie ou de mort pour notre pays.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc arrêter les négociations, les pourparlers à Kampala, organiser un dialogue national, si je comprends votre pensée.
Non seulement nous alliés, nous sommes alliés. Je viens de suivre à Radio Okapi la voix des sans-voix, la SADO, qui demande au président de la République, pas au pouvoir, mais au président de la République, de suspendre immédiatement Kampala. Kampala nous perd et le temps, il nous perd et les moyens, il nous perd et l'énergie, et ça sera un avortement pur et simple. Et on nous fait croire que tous nos yeux sont braqués vers Kampala. À Kampala, il n'y aura rien. Organisons un dialogue, un débat national, comme les animaux malades de la peste, et que les lions viennent pour justifier qui l'a croqué. Et que l'âne vienne pour nous dire quelles herbes il a broutées. Et ensemble, nous constituerons un État.
Merci. Professeur Abbé Mugaruka, il faut organiser un débat. Le M23 devrait-il être invité à participer également à ce débat?
Bon, je me suis absenté pendant un mois. Je suis parti en Europe le 9 décembre. Mais avant de partir, j'étais passé sur plusieurs fois sur des chaînes de télévision où je proposais un dialogue inclusif, où toutes les forces vives de la nation seraient invitées à prendre place et part, et un dialogue alors ouvert où on pourrait discuter de tous les problèmes, y compris ce que l'on considère à Kampala comme un tabou. Parce que, en démocratie, le dialogue doit être permanent et ouvert. On doit en permanence être à l'écoute les uns des autres, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui ne sont pas au pouvoir, l'opposition comme la majorité, les politiciens comme la société civile. On devrait avoir un dialogue permanent, parce que lorsqu'on ne peut pas dialoguer, lorsque on fait de la restriction mentale, lorsqu'on impose aux gens le silence, eh bien cela ne peut pousser qu'à la violence. J'avais donc déjà proposé cela. Maintenant, pour que cela ait lieu, il ne faut pas que le pouvoir se considère comme une composante ayant un statut particulier.
Comment ça?
C'est-à-dire, en démocratie, eh bien, devant la loi, tout le monde est égal. On devrait discuter non pas de la pérennité du pouvoir, non pas comment pérenniser quelqu'un au pouvoir ou pérenniser un parti au pouvoir, parce que ce qui est en question, c'est la survie de la nation. Les gens qui meurent à Goma, ce ne sont pas des ministres, c'est des députés. Ce sont des citoyens ordinaires. Donc la société civile devait prendre une place très importante à cette concertation. Et je pense que si on avait accepté cela, on n'aurait pas aujourd'hui une sorte de réunion de famille où vous trouvez le gouvernement qui est en train de se battre contre ses alliés, parce que à ma connaissance, le CNDP fait partie de la majorité présidentielle. Le CNDP mué à M23, à mon humble avis, lorsqu'on a discuté les accords de M23, le Parlement n'a pas été associé. Ce sont des affaires qui se sont faites en catimini. Et c'est cela qu'il fallait corriger par un dialogue de tout le monde. Parce que vous savez, le gouvernement est militairement faible, c'est vrai, mais il est aussi même politiquement et diplomatiquement faible devant ses ex-alliés. La société civile n'a rien à voir avec le M23. Ils auraient pu demander au M23 pourquoi est-ce que vous nous tuez? Pourquoi est-ce que vous tuez la population? J'aurais pu demander au M23, pourquoi est-ce que vous enfreignez la Constitution? Le M23 serait beaucoup plus mal à l'aise s'ils avaient à discuter avec la société civile, qui est, disons, la composante majeure de tous les peuples, que s'ils devaient avoir simplement affaire à ses anciens alliés. Et donc, je pense que si on veut parler des voies de sortie, la toute première chose qu'il faut envisager, qu'il faudrait mettre sur c'est ce dialogue ouvert. Ou tout, y compris la légitimité. La légitimité n'est jamais acquise une bonne fois pour toutes, vous le savez.
Et donc, monsieur l'abbé, il faudrait arrêter ici et maintenant les pourparlers de Kampala.
Oui, absolument. Tout le monde savait que les dialogues et à Kampala, chez le pays, dans le pays où qu'on a accusé d'être le commanditaire de la rébellion. Ce n'était pas une chose à faire. Il faut chercher un autre cadre, un autre endroit, un autre arbitre, une autre haine. C'était mal engagé. C'est un dialogue qui ne peut aboutir à rien parce que les prémices sont mauvaises. Donc, il faut, d'une part, mettre fin à cette histoire de Kampala, ce qui ne signifie pas mettre fin au dialogue, ça signifie simplement chercher un autre cadre et organiser un dialogue ouvert, inclusif, où il n'y a pas de tabou, toutes les questions peuvent être discutées, parce que c'est ça la démocratie tout simplement. Si on veut respecter la Constitution, il faut aller jusque-là.
Voilà, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer cette émission. Professeur Théophile Bemba, il faut déjà conclure. Faut-il mettre fin pour parler de Kampala, professeur, ici et maintenant?
D'abord, très rapidement, lorsqu'on parle d'allier M23 allié au gouvernement, je ne comprends pas cela. C'est comme si on dirait que l'Union de la Nation est alliée au gouvernement, parce que hier, les responsables de l'Union de la Nation étaient avec. Sa chose peut changer. De deux, lorsqu'on dit qu'on fait la politique des pingouins, non. Je crois que le chef de l'État, le président de la République, a compris qu'il y a des problèmes. Et il demande d'écouter. Quoi de plus?
Mais alors, commencer par arrêter Kampala pour écouter les autres.
On ne peut pas. Il y a une ligne rouge qu'on ne devrait plus franchir. Pourquoi? Parce que il y a eu la conférence sur la souveraine. Qu'est-ce que nous ne sommes pas dit? Qu'est-ce que les Congolais ne se sont pas dit pendant la conférence sur la souveraine? Il y a eu le dialogue intercongolais. Et on veut recommencer?
Et en guise de conclusion, professeur, qu'est-ce que vous voulez dire?
En guise de conclusion, je crois que, primo, il faut que nous comprenions tous que nous avons les institutions et que tout ce qui devrait se faire dans les cases d'institutions, et maintenant il revient aux institutions, comme le président de la République l'a dit, d'écouter pour que corriger, mieux faire ce qui peut-être pose problème aux uns et aux autres.
Honorable Bitakouira, conclusion.
La conclusion est que plus on traîne dans la toilette, plus on entend les odeurs. C'est ce que nous subissons. Ici, il est question effectivement que nous abordions l'avenir de notre pays avec beaucoup de responsabilités. Je ne vois pas l'avenir de ce pays où on n'associe pas Tshisekedi, où on n'associe pas Vital Kamerhe, où on n'associe pas Monsengo, où on n'associe pas Bemba, et où on n'associe pas les forces vives de l'intérieur comme de l'extérieur. Sinon, c'est de l'aventure, c'est de la mésaventure, ce n'est pas différent du moment où nous avons vécu, que c'est notre gouvernement qui a fait appel aux troupes rwandaises pour venir nous aider à porter la paix, alors que ce sont les troupes rwandaises qui nous ont fait tout le mal que nous connaissons.
Monsieur l'abbé Mugaruka, il faut vite sortir des toilettes pour ne pas entendre toutes les odeurs.
Absolument, et même si je ne partage pas cette manière d'identifier le pays à des individus, il n'y a personne qui est propriétaire de ce pays. Ce pays est propriétaire, comme propriétaire, le peuple congolais. Et donc c'est au peuple congolais qu'il faut faire appel, au peuple congolais tout entier, pour que nous allions discuter de tout. Il n'y a pas de tabou, puisque ce pays nous appartient. Merci. C'est à nous, comme peuple souverain premier, d'imposer notre volonté à ceux qui nous dirigent et pas l'inverse.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à Kevin Kouté, Samuel Kachak, au Pelékipé Mondo qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Willem Lungamba et Patrick Yassongo a été à la technique. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Kapi. Au revoir.